Alors, le contexte est un peu différent du nôtre, parce que là, la première épître de Pierre, il l'a écrite dans le cadre de persécutions qui avaient lieu déjà et qui allaient arriver ou qui allaient s'intensifier. On ne sait pas exactement à quelle époque, enfin, si on sait à peu près à quelle époque elle a été écrite, mais c'est à une année près, on ne le sait pas. On ne sait pas si c'est juste avant la persécution sous Néron ou pendant la persécution sous Néron. Toujours est-il que c'était des temps difficiles. Et c'est intéressant là parce que Pierre, en même temps alors qu'il parle de cette situation difficile, donne des enseignements qui sont riches. Alors, on va commencer simplement au chapitre 1, verset 1, et puis je m'arrêterai et continuerai sans doute les prochaines fois. Donc, Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie. Donc là, c'est en Asie mineure, équivalent à la Turquie, hein, donc c'est à ces gens-là qu'il s'adresse. Alors c'est intéressant parce qu'il parle d'étrangers dispersés. En grec, c'est diaspora, donc ça sous-entend qu'il y avait des juifs qui faisaient partie de cette église, enfin des juifs convertis au christianisme qui étaient dans cette église. Et c'est un point important parce que pour les juifs, plus que peut-être que pour les païens à l'époque, il y avait cette idée que si on marchait avec le Seigneur, on était protégé. Et au contraire, si on traversait des épreuves, c'est qu'il y avait sans doute un péché dans notre vie. Alors on sait que il n'en est rien durant la dispensation du Nouveau Testament. Même dans l'Ancien, c'était pas toujours le cas, puisqu'on a eu des serviteurs de Dieu qui ont été persécutés ou qui ont eu des difficultés. Mais néanmoins, c'est encore plus probant dans le Nouveau Testament. Et donc, c'était important qu'ils soient enseignés dans ce domaine-là, parce que sinon ils auraient vécu dans une culpabilité qui n'avait pas de mise. Ensuite, il dit, et qui sont élus selon la préscience de Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées. Je ne vais pas parler là de l'élection ou de la prédestination, le mot préscience, on en parlera peut-être à un autre moment. Voilà, mais là je veux m'attarder sur l'œuvre de l'Esprit. C'est encourageant de savoir que là, la sanctification, elle est opérée par l'Esprit. C'est-à-dire que c'est pas le croyant qui agit pour être sanctifié, c'est le Saint-Esprit qui opère pour la sanctification. Et ça, c'est un point important. On parlait tout à l'heure de notre attitude de demander de grandes choses à Dieu. Ça, c'est une attitude correcte et spirituelle qui nous permet en effet d'être de plus en plus sanctifiés et d'être de plus en plus consacrés au royaume de Dieu. Néanmoins, ce n'est possible que par la force de l'Esprit. C'est pas l'homme pécheur ou le croyant sauvé qui se sanctifie. C'est une sanctification de l'Esprit. Donc le Saint-Esprit, alors que Dieu nous avait mis à part il y a très longtemps, hein, on sait, il y a plusieurs sanctifications. Il y a la sanctification, je dirais, prénatale. C'est ce qu'on voit par exemple dans Galates où Paul dit qu'il avait été mis à part dès le ventre, dans le ventre de sa mère. On voit que Jérémie aussi, alors qu'il était dans le ventre de sa mère, Dieu le connaissait. Donc le Saint-Esprit nous met à part alors même que nous sommes sortis du ventre de notre mère. Donc ça veut dire que Dieu avait déjà un plan pour notre vie, bien entendu. Et ce qui fait que moi, ça m'a beaucoup encouragé quand je me suis converti. Parce qu'on peut se poser la question, mais pourquoi Dieu m'a pas amené à lui et plus tôt, j'aurais fait moins de bêtises, j'aurais pu le servir plus tôt, etc., etc. Et en fait, j'ai réalisé que Dieu m'avait déjà mis à part avant, de toute manière, et que tout ce que j'avais pu vivre, bien entendu, avait des conséquences peut-être négatives, mais aussi participait à ma sanctification. C'est-à-dire que l'expérience pré-conversion m'aide encore aujourd'hui. Et donc, c'est le Saint-Esprit qui nous garde. Donc ça, c'est la sanctification prénatale. Ensuite, vous avez et donc prénatale au niveau de notre être, mais aussi avant notre nouvelle naissance. On avait déjà été mis à part. Et puis ensuite, quand on se convertit, on est mis à part par Dieu. Pour lui, on fait partie de son peuple. Donc ça, c'est notre position. Et il y a une autre sanctification qui est celle qui est progressive, puisque on ressemble de plus en plus à Christ, hein, lorsqu'on marche par l'Esprit. Et puis la sanctification ultime, où lorsque nous verrons, nous serons comme lui, comme le dit l'apôtre Jean dans sa première épître. Donc voilà un petit peu ce qu'on voit, c'est que c'est Dieu qui opère. Par contre, là où nous avons notre mot à dire, je dirais, c'est la sanctification progressive. C'est-à-dire, est-ce que j'accepte que le Saint-Esprit fasse le travail qu'il a envie de faire dans ma vie? Est-ce que j'accepte d'être rempli de l'Esprit? Est-ce que j'accepte de discerner les esprits? Est-ce que j'accepte d'être fortifié par l'Esprit? Est-ce que j'accepte l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu? Et donc, il m'est demandé de recevoir. Et ça, si je n'accepte pas de recevoir, il va y avoir un frein dans ma sanctification. Donc, nous sommes élus selon la préscience de Dieu par la sanctification de l'Esprit, afin qu'il devienne obéissant. Donc, c'est intéressant parce que là aussi, c'est parce que Dieu nous sanctifie qu'on devient obéissant. On n'est pas obéissant au départ. Et aujourd'hui, il y a peut-être des choses dans des domaines dans lesquels on n'est toujours pas obéissant, et Dieu va agir, Dieu va faire des choses, et qu'il participe à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Là, l'expression est intéressante parce que elle s'adresse justement à des gens qui connaissent l'Ancien Testament. La seule fois où des êtres humains dans l'Ancien Testament et dans la volonté de Dieu sont aspergés par le sang, c'est lorsque Dieu donne la loi à Moïse. Et que le peuple fait une alliance avec Dieu par rapport à la loi, et Moïse prend, je sais plus, une herbe, je crois, je sais plus, je me demande si c'est pas de l'hysope, mais je suis pas sûr. Et il trempe dans le sang des animaux ce feuillage, et il asperge le peuple, c'est-à-dire qu'il jette du sang sur le peuple. Et donc le peuple est couvert par le sang et aspergé par le sang. Et ça signifie que le peuple s'engage avec Dieu et Dieu s'engage avec le peuple, c'est-à-dire que Israël est maintenant le peuple de Dieu sur la terre et le représentant de la gloire de Dieu. Et c'est la seule fois où ça arrive. Et là, évidemment, ça avait une valeur spirituelle aussi, hein, c'était un type de ce qui nous est arrivé à nous. C'est-à-dire que quand nous avons cru, nous avons été aspergés par le sang de Jésus-Christ et non pas par le sang d'un animal. C'est-à-dire que nous sommes au bénéfice du sang de Christ. Et parce que nous sommes au bénéfice du sang de Christ, nous faisons maintenant partie du peuple de Dieu. Et nous sommes le vrai peuple de Dieu, du coup. Le peuple qui est lié au Messie. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Béni soit Dieu, le Père notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Là, c'est l'expression espérance vivante est belle. Vous savez qu'on peut avoir des espérances mortes. Je peux souhaiter gagner au loto. Je peux souhaiter que cette personne m'aime. Je peux souhaiter avoir ce travail, mais ça n'arrivera jamais peut-être. Et ce sont des espérances mortes. Il y a parfois des illusions aussi. Mais nous avons reçu une espérance vivante, c'est-à-dire que elle n'est pas forcément expérimentalement vécue encore, mais elle est vivante. C'est-à-dire que elle est en Dieu. Et ça, c'est le point important. Et parce que, vous voyez, c'est lié par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. C'est-à-dire que c'est par la résurrection de Jésus-Christ que j'ai cette espérance. Parce que moi, même si j'obtiens tout ce que je veux, c'est mort déjà parce que je vais mourir. Alors je peux en profiter pendant un temps, mais c'est une espérance un peu vaine. Alors faut pas non plus être pessimiste, hein. Je connais des chrétiens des fois qui la jouent très hyper spirituelle et qui rejettent à la limite toute minute vécue sur cette terre. Je me rappellerai toujours, j'avais une fois des chrétiens, des frères et sœurs qui étaient venus sur Paris, des étrangers, et je leur avais fait visiter un peu Paris, notamment, je sais pas si vous connaissez, au Louvre. Quand vous passez sous un bâtiment, là, près de la pyramide, vous avez des grandes salles vitrées, enfin, c'est une grande baie vitrée, vous voyez la salle avec des sculptures, des plantes, etc. C'est comme une grande serre, c'est une hauteur qui doit faire 40 mètres, je sais pas. C'est impressionnant et beau. Et alors, les gens m'avaient demandé de leur faire visiter et tout ça. Puis, les commentaires, c'est, oh, c'est fou ce que l'homme peut faire alors que c'est vain. Et moi, je m'étais dit, mais pourquoi je suis là? Faut vous faire visiter ça. Alors, c'est oui, bien sûr que c'est vain, mais en même temps, on a le droit d'aimer le beau. Vous voyez, donc on a le droit de vivre certaines choses dans la vie quand même. On n'est pas obligé d'être habillé avec une robe de bure et des sandales. On a le droit d'avoir une jolie robe ou un joli costume. La seule chose, faut pas que ça soit une idole. Mais en tous les cas, ce qui est sûr, c'est que si je mets mon espérance dans les choses de ce monde, il est vrai malgré tout que c'est in fine une vanité parce que tout va disparaître, la vie est une vapeur. En revanche, nous, notre espérance est vivante. Et ce qui est, et Pierre va le répéter plusieurs fois d'une manière ou d'une autre, c'est que le défi pour le chrétien, des fois, c'est que comme ce qu'il voit sent la mort, alors évidemment, c'est facile d'en parler aujourd'hui, hein, le virus peut sentir la mort, le chômage, on va perdre de l'argent, quelle est notre situation, donc on associe la vie que nous avons, mais qu'à la limite, que le monde nous offre, c'est comme ça, ou que nous avons semé, malheureusement, pour certains d'entre nous, mais on l'associe à ce que Dieu nous a promis, alors que Dieu nous a d'abord promis une espérance vivante, c'est-à-dire qui est liée à la résurrection de Jésus-Christ, et qui est liée du coup à notre propre résurrection. C'est-à-dire que l'espérance vivante, c'est la résurrection. L'espérance vivante, bien sûr, on est content d'avoir une famille, des enfants si on peut, c'est un travail, bénir l'Église, avoir un passe-temps, enfin, on a le droit de vivre ces choses. Mais lorsqu'elles nous sont enlevées, du coup, il y a plus d'espérance. Ou quand on ne les a pas, on n'a plus d'espérance. Alors que le chrétien a reçu une espérance vivante liée à la résurrection de Jésus-Christ. Et c'est notre devoir de ne jamais oublier ça. Nous avons une espérance vivante, c'est-à-dire que Jésus-Christ ne cessera pas de vivre, il nous prépare une place au ciel, il y a beaucoup de pièces ou de chambres dans la maison de son Père, et donc nous avons cette espérance qui est vivante. Et honnêtement, je le répète, hein, souvent quand j'évangélise, quand des fois je conseille les personnes ou quand je discute, que ça soit avec des chrétiens ou des non-chrétiens, la principale différence entre une philosophie quelle qu'elle soit, et une religion, quelle qu'elle soit aussi, c'est que la religion parle d'abord de l'après. D'accord? Elle parle du mode de vie, et donc il y a une philosophie chrétienne, il y a une philosophie musulmane, il y a une philosophie bouddhiste, il y a une philosophie animiste, mais toutes ces religions-là ont quand même comme message de communiquer, à tort ou à raison, ce sont des mensonges ou des vérités, mais des choses concernant l'après. Si on ne parle pas de l'après, restons philosophes. Et vous avez des philosophes qui ne croient pas en Jésus-Christ, mais qui aiment la philosophie chrétienne. Et ce qui fait qu'ils ont un mode de vie chrétien, qui fait qu'ils ont une vie plus heureuse que d'autres, parce que la philosophie chrétienne est meilleure, bien entendu. Mais ça ne fait pas de cette personne une personne régénérée, et ça ne lui donne pas une espérance vivante dans le sens éternel du terme. La vie chrétienne, c'est pas une philosophie. Mais par contre, cette espérance vivante engendre une philosophie de vie. Ça, c'est sûr. C'est ce qu'on appelle la sanctification, la vie pratique, la confiance, la foi, etc. Donc, il nous a régénérés, donc il nous a fait naître de nouveau pour une espérance vivante qu'on vivra principalement dans l'éternité, même si ça commence maintenant, et grâce à la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Donc, que ça soit la régénération, que ça soit l'espérance vivante et que ça soit la résurrection de Christ ou Jésus-Christ tout simplement, ça parle toujours de la nouvelle vie, ça parle pas de cette vie-là. Alors qu'après, il va parler de la persécution, il va parler du comportement des chrétiens, il va parler du mode de vie, les réactions qu'on doit avoir, etc. Donc, pour rester dans le cadre de ce soir, il va y avoir une philosophie de vie qui va être proposée, mais qui est le résultat de cette espérance vivante. Et il continue, verset 4, « Pour un héritage qui ne peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. » Vous voyez la clé là? C'est que l'espérance, cet héritage, il nous est réservé dans les cieux. Il n'est pas forcément réservé ici. Et donc, Pierre là est en train de mettre les choses au clair, si vous voulez. Il commence à mettre de l'ordre dans la façon dont on doit penser. Et on peut comprendre que ces croyants d'origine juive ou pas, parce qu'on verra plus tard qu'il y avait aussi des païens, mais pouvaient être dans l'expectative, la peur, la crainte, le doute devant ce que Dieu permettait contre l'Église même. C'est pas là, c'était pas forcément des guerres ou un virus qui touche tout le monde. Non, là c'était les persécutions contre les chrétiens. Et donc c'est encore plus difficile d'espérer parce qu'on se dit mais qu'est-ce que Dieu fait là? Est-ce que c'est moi qui me suis trompé? Est-ce que on est un péché dans notre vie? Est-ce que Dieu est contre nous? Est-ce que Dieu nous a oubliés? Donc là Pierre dit attention, ce que Dieu vous a réservé c'est dans les cieux. Et cette espérance vivante là, elle ne peut être comment dire expérimentée maintenant que si je regarde vers le futur. D'ailleurs une chose importante à savoir. Concernant le mot salut dans l'épître de Pierre, c'est qu'il est pratiquement exclusivement utilisé dans un sens eschatologique. C'est-à-dire que il y a le salut quand on est sauvé, par exemple, mais lorsque Dieu nous a sauvés, il nous a donné déjà les arts de notre héritage, c'est-à-dire le Saint-Esprit, il nous a renouvelés, il y a la nouvelle naissance, nos yeux sont éclairés, etc. Donc ça, c'est le salut. Mais on n'a pas tout reçu encore concernant le salut. le salut, c'est ressuscité. D'accord? C'est la mort qui est vaincue. Donc, c'est ça le salut. Et c'est pour ça que Pierre, comme il pointe du doigt le futur devant ses lecteurs, lorsqu'il parle du salut, il parle du salut à venir. Ça veut pas dire que le salut est conditionnel. Il veut dire par là, parce que si vous prenez un verset en dehors du contexte, dans l'épître de Pierre, vous pouvez vous dire, mais attends, le salut n'est pas sûr, il n'est pas encore acquis. Non, non, il veut dire par là qu'il n'est pas encore réalisé. Mais c'est pas parce qu'il n'est pas encore réalisé qu'il n'est pas sûr. Et c'est pas parce qu'il n'est pas encore réalisé qu'on doit désespérer. Non, on doit regarder le salut dans une vision eschatologique, parce que même le salut aujourd'hui, parfois ne suffit pas. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a encore la chair entre la lutte entre la chair et l'esprit, il y a les tentations, il y a le combat spirituel, il y a des personnes autour de nous qui ne sont pas croyantes et qui peut-être sont contre nous. Enfin, la vie n'est pas facile, le corps qui se fatigue pour certains sont malades, donc la vie n'est pas facile, alors que nous sommes sauvés. Mais l'espérance ultime, c'est parce que un jour, il y aura même plus de lune, même plus de soleil, on n'aura pas besoin, parce que Jésus sera notre lumière. Nous serons dans un lieu où il n'y aura plus de larmes, plus de mort. Voilà, c'est ça le salut. Et on doit regarder à cela. C'est pas uniquement est-ce que ça va bien aujourd'hui. Donc, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux, à vous qui, par la puissance de Dieu, là encore une fois, tout à l'heure on voyait que c'était la sanctification de l'esprit. Maintenant c'est la puissance de Dieu, être gardé par la foi pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. Vous voyez, être gardé par la foi, là le mot foi c'est synonyme de doctrine. C'est-à-dire qu'on est gardé par la doctrine. Et plus tard d'ailleurs, Pierre, on en reparlera, va, un peu comme Paul dans Romains 12, va parler de l'entendement, saigner les reins de votre entendement. C'est-à-dire qu'on a besoin d'avoir des pensées renouvelées, des pensées correctes. Pourquoi ? Parce que ce qu'on voit matériellement, physiquement, ce qu'on entend, la marche par la vue, pour le dire autrement, va à l'encontre des fois du caractère de Dieu et ce que Dieu nous a promis. Et donc on a besoin d'avoir nos pensées qui, elles, sont orientées dans la bonne direction. Et on n'est pas gardé par les situations. Parce que quand les situations vont pas bien, on est gardé. Comment on est gardé ? On est gardé par la foi, c'est-à-dire le corpus de doctrine, ce en quoi je crois et en qui je crois. Donc on est gardé par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Alors vous voyez, là c'est un exemple précis. On a l'impression que le salut, il va peut-être arriver dans les derniers temps, et si on est mal gardé, qu'est-ce qui va se passer ? Non, c'est le salut complet dont il parle. C'est qu'il va être entièrement révélé. Encore une fois, ça parle de la résurrection. Verset 6, c'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, et il expliquera pourquoi après, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Vous voyez le point là? C'est quoique maintenant. D'accord? Oui, c'est vrai. Maintenant, il y a diverses épreuves que nous devons traverser pour un peu de temps. Alors des fois, nous, on trouve que le peu est long. Mais comparé à l'éternité, c'est peu. Merci Seigneur, je vais pas avoir l'âge de Mathusalem. Donc c'est pour un peu de temps, par diverses épreuves. Voilà, il met les cartes sur table là. Oui, c'est vrai. Et encore une fois, il leur parle de persécution. Et sous Néron, ça a été chaud hein, pour les chrétiens. Mais comment on va continuer d'être joyeux ? Ben, c'est la joie de notre salut. C'est là ce qui fait votre joie. Voyez, c'est-à-dire dans les cieux, ça nous est réservé, c'est un héritage qui peut pas se corrompre. Sous-entendu, on peut pas vous le prendre. Hein. Il peut y avoir la persécution, mais on en parlait tout à l'heure dans les témoignages, on a quelque chose que personne peut nous enlever. Mes amis, ce soir, et je vais m'arrêter là, qu'est-ce qui fait notre joie ? Ce qui fait notre joie, c'est ce qui vient de nous être décrit là. Alors évidemment, on a besoin des fois d'avoir des... Et Dieu le fait parce qu'il est miséricordieux, il n'est pas méchant, c'est notre Père. Bien sûr qu'il y a de la joie sur la terre aussi. La joie de se retrouver, la joie de... Voilà, il y a des joies dans la vie. Mais ce qui nous fait notre joie au singulier, notre joie, c'est l'espérance que nous avons reçue. Et ça, il ne faut pas l'oublier dans les temps que nous traversons en ce moment. Que Dieu vous bénisse.